Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 9 décembre. Vous écoutez votre émission préférée qui vous parle de voyage, de nature et de science. Bonjour André-Étienne.
Bonjour Michel.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
La glace est brisée, on est entré dans nos sujets.
Tout va bien.
Oui, oui. Je sais qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui ont la grippe, qui toussent. Et ça leur donne l'occasion de nous écouter. Peut-être pour la première fois, ils vont nous découvrir.
Possible.
André, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, j'ai trois sujets dont je vais vous parler. Les promesses de l'aspirine. Tout le monde la connaît, mais vous allez voir qu'on découvre encore des choses.
Oui.
Les propriétés des plantes, comment elles agissent, comment elles nous aident. Et le troisième, divorcer ou non. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas parler du divorce chez les êtres humains, mais plutôt chez les oiseaux.
Ah oui, il y a le divorce chez les oiseaux.
Ça arrive également.
Bon. De mon côté, je vous emmène dans un pays que j'adore, que j'ai trouvé merveilleux, photographie extraordinaire. C'est la Bolivie.
Wow.
Alors, on va survoler la Bolivie. Par la suite, est-ce que vous saviez qu'on cultive du safran au Québec?
Pour moi, c'est assez incroyable.
Et on cultive du safran, vous allez voir, vous allez découvrir à quel endroit. Un petit indice, c'est au pays des lutins. Ah, peut-être que vous allez comprendre. Puis, vous savez qu'il y a de plus en plus d'immigrants illégaux qui tentent de passer des murailles un peu partout. Je ne parle pas de la muraille de Chine. Et on a inventé toutes sortes de moyens pour contrer leur invasion. Vous allez voir qu'on est assez imaginatif. Restez avec nous, vous allez en savoir plus.
D'accord.
Alors, je vous amène en Bolivie. C'est à partir d'un article de Sarah Emilino, qui est tiré du Journal de Montréal du 18 octobre. C'est situé à plus de 4000 mètres d'altitude et vous arrivez à l'aéroport d'El Alto. Ben, ça porte son nom, hein?
Ben
altitude
oui.
d'El Alto. Et vous allez avoir un accueil qui peut être un peu étourdissant. Mais rapidement, c'est la passe qui va se découvrir devant vous. Et c'est dans le creux de sa colline du haut de ses 3600 mètres. Je pense que c'est la capitale la plus élevée au monde, si je ne m'abuse. C'est une capitale colorée, exubérante. Et là, vous allez voir les cholas, ou cholitas, si on préfère, les visages marrons. Et ils sont vêtus de leur habit traditionnel. Et ils ont une dizaine de jupes, je parle des femmes, bien sûr, entassées les unes sur les autres, des chandails de laine, un mince chapeau haute forme. Qui est placé sur le bout des cheveux. Et vous savez qu'en Bolivie, les coiffes des femmes, c'est selon les régions. Donc, à la base, c'est le typique chapeau melon. Et sur leur dos, ils ont leurs éternels aguayos. Aguayos, c'est des draps qui sont typiquement colorés et qu'elles utilisent pour porter un peu de tout, les enfants particulièrement. Bon. Et des fruits, des fromages, l'artisanat. C'est le sac à dos, sac à dos bolivien, si on veut. Sont assis sur le trottoir, parfois directement dans la rue, derrière leurs fleurs, leurs légumes, leurs miches de pain, fromage. Les cholas ne sourient pas beaucoup, sauf lorsqu'on leur adresse la parole en espagnol. Cette culture bolivienne des marchés, pour moi, c'est ravissant. C'est le fait que les micros, c'est les minibus qui serpentent la ville. Ils doivent contourner les étals d'artisanat où vous avez des montagnes de toutes sortes de choses. Popcorn en pleine rue. Et ça, c'est tout à fait typique de La Paz. En déambulant dans les allées, formant le Mercado de Hechicería, ça c'est le fameux marché aux sorcières, c'est un air épicé d'ambiance troublante, et les touristes ne sont pas nécessairement les bienvenus dans cette antre magique, mais on réussit à se faufiler à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, le Mercado de Hechicería.
Ah, mais attendez, ça, c'est un marché, ça?
Oui.
Ah, j'adore les marchés. Qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là? J'adore ça,
les marchés. Il est très particulier. Ah, oui, ils sont à découvrir un peu partout dans le monde. Et on se procure des amulettes, des herbes, des huiles boisées, des potions magiques. Ah. Vous allez avoir l'amour, la santé, la fortune.
Juste ça!
Vous avez des bonbons, de l'encens et des fœtus de lama séchés. Wow. Qui on va brûler un vendredi par mois lors de célébrations musicales en guise d'offrande à la terre-mère Pachamama. Vous allez entendre ça partout, la Pachamama.
Là, vous parlez des fœtus de la lama séchée?
Oui, wow. C'est ça. Et un peu plus bas dans la ville, la plaza qui entoure l'église de San Francisco a un perpétuel air de fête. La populaire rue Sagarnago rassemble les routards, les danseurs, les musiciens costumiers, écoliers, chiens, un peu de tout, des amuseurs de rue aussi, et des artisans à l'œuvre et les cholas dont on parlait précédemment. À travers la folie de cette ville, vous avez la ruelle, en fait, c'est Jaén, c'est J-A-E-N. C'est près de l'église Santo Domingo. Ça, c'est le point de rencontre des poètes, des musiciens, et ça abrite des dizaines de musées, des cafés, où on va pouvoir prendre un maté de coca. Les feuilles de coca qu'on trouve partout sur les coins de rue, des gros sacs de feuilles de coca. On mange beaucoup la coca parce qu'on est en altitude et ça ne crée pas d'euphorie. Il faut oublier ça. Hein?
Okay, là,
c'est des feuilles de coca. On pourrait en parler. J'aimerais faire un article là-dessus à un certain moment donné. On en trouve partout en Bolivie. Entre les Andes et le célèbre lac Titicaca, vous avez Copacabana. C'est un petit paradis blotti au creux de la vallée. C'est à 4h30 de La Paz. C'est le long d'une route au paysage extraordinaire. Et c'est une petite ville qui semble faire l'unanimité auprès des aventuriers du monde entier. Le lac Titicaca est aussi impressionnant que prétendent les livres d'histoire. On en rigolait beaucoup quand on était jeune, hein, le lac Titicaca. Ça nous aimait
ben,
beaucoup. C'est vraiment un lac à découvrir. J'en ai déjà parlé. Ça aussi, ça fait un article en soi. Vous prenez un bateau ou aussi vous avez des balsas de totora. C'est fait avec ce qu'on trouve sur le bord des eaux à ce moment-là. On se rend à l'Isla del Sol. Ça sonne bien, hein, l'île du soleil. Puis la Isla de la Luna, l'île de la lune. Et vous avez un autre endroit où j'ai résidé qui s'appelle l'île de Taquile. Pas d'électricité, magnifique. Et curieusement, ce sont des hommes qui font des tricots qu'on vend dans un centre d'artisanat. Et vous allez jusqu'à la basilique de Copacabana, qui est splendide, dorée, plafond orangé. Et c'est ici que les pèlerins se rendent par milliers pour prier la fameuse Vierge de la Candelaria, chandelier, qui est patronne de la Bolivie.
Mais s'il y a tant de pèlerins qui viennent, elle doit avoir des propriétés spéciales, des capacités spéciales.
Oui, entre autres choses, la Vierge de la Candelaria, qui est tout petite d'ailleurs, hein?
Oui.
Vraiment, on s'attend parfois... Non, elle est toute petite. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est noire, la Vierge noire.
Ah oui,
elle n'a pas été apparemment créée de cette façon-là. C'est que si elle est noire, c'est qu'elle est entourée de lampions qu'on allume frénétiquement et qu'on fait qu'avec la fumée, elle est devenue noire.
D'accord.
On s'attire à sa fin. J'aurais encore énormément... J'adore cet endroit qui s'appelle la Bolivie. Il y a tellement de découvertes à faire. On pourrait parler longuement du lac Titicaca, des Ouros, des îles flottantes, de toutes ces choses magnifiques qu'on peut y découvrir. C'était un aperçu à vol d'oiseau qui était présenté par Sarah Émilie Naud dans le Journal de Montréal du 18 octobre.
Eh bien, oui, je vais vous parler des promesses de l'aspirine. Et c'est un article tiré de Québec Science du mois de décembre 2012, écrit par Marine Corneau. Bon, l'aspirine. Et savez-vous, Michel, depuis quand elle existe, l'aspirine?
Elle existait quand j'étais enfant, donc ça veut dire que ça fait assez longtemps.
Arrêtez, arrêtez. Bon, j'ai la réponse, alors je vais vous la donner, mais quand même, vous exagérez un peu. Elle a été commercialisée depuis 116 ans.
Ah, c'est avant moi, c'est avant moi.
Quand même, quand même. Donc, elle a été commercialisée pour ses propriétés antalgiques que tout le monde a expérimentées, anti-inflammatoires. Et savez-vous que c'est l'un des médicaments les plus consommés dans le monde? Aux États-Unis, 20% des adultes prennent de l'aspirine à faible dose.
Oh.
Et au Canada, l'aspirine fait partie de la diète quotidienne de 4 millions de personnes. On est 30 millions au Canada,
oui,
à peu près?
Oui.
En plus, ça ne coûte rien.
Hein? Ah, c'est ça. Très bon marché.
Mais voici que cette petite molécule nous réserve encore de nouvelles possibilités. Et que ce comprimé suscite un engouement renouvelé parce qu'il se révèle un précieux allié contre le cancer.
Ah oui?
Oui, c'est assez incroyable. Alors, tout a commencé il y a une vingtaine d'années quand des médecins avaient remarqué que leurs patients traités par aspirine en prévention d'éventuels problèmes cardiaques étaient moins sujets que les autres au cancer colorectal. Et aujourd'hui, plusieurs méta-analyses portent sur des milliers de personnes viennent confirmer ce phénomène. Donc, ce n'est pas le rien, hein, des milliers de personnes. En effet, l'aspirine a un effet préventif non seulement contre le cancer colorectal, mais contre presque tous les autres cancers. Et elle pourrait en plus agir sur les cellules cancéreuses existantes en diminuant le risque de métastase et en augmentant évidemment le taux de survie des malades.
Ben ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on devrait mettre tout le monde à l'aspirine à ce moment-là?
Ah, ben ça serait une bonne idée, ça. Mais par contre, là, quand même, bon, l'aspirine, on en connaît les effets secondaires possibles. Et il y a une petite note à la fin de l'article qui dit que tenter de mettre tout le monde à la mode de l'aspirine, mais tous les intervenants interrogés dans l'article soulignent les dangers de l'automédication.
Ah! Voilà.
Et l'importance et la nécessité de discuter de tout traitement avec son médecin. Il vaut mieux prévenir, comme on dit toujours. Par contre, il y a quand même une information très importante qui apparaît dans une petite capsule de l'article de Marine Cornu et que je veux vous lire absolument. C'est une capsule 911. Elle dit que depuis octobre 2014, Santé Canada a accordé à Bayer le droit de promouvoir l'aspirine comme traitement d'urgence des crises cardiaques. En cas de symptômes suspects, il est désormais conseillé de prendre un ou deux cachets en attendant l'arrivée des secours. Je vous avoue que j'aurais bien aimé qu'on nous dise à quel dosage, parce qu'il y a plusieurs dosages de l'aspirine. Donc, pour revenir un petit peu donc, à cette découverte, il y a plusieurs études dont je vous fais un petit résumé. Donc, d'abord, deux chercheurs londoniens qui travaillent dans un centre de prévention du cancer résument le résultat d'une étude qui colligeait presque tous les essais cliniques qu'ils avaient pratiqués. Ils disent, voilà, l'aspirine est un médicament très spécial et je ne pense pas que d'autres molécules puissent être aussi efficaces pour prévenir le cancer et les maladies cardiovasculaires. Les résultats sont sans équivoque et les voici. La prise d'aspirine quotidienne pendant 10 ans permet d'abord de réduire le taux de cancer du côlon, 35%, et deuxièmement, de réduire de 30% le risque des cancers de l'œsophage. Par ailleurs, plusieurs études analyses menées par une équipe de l'Université d'Oxford ont démontré que l'aspirine réduisait aussi le risque de cancer du sein, de l'ovaire, du pancréas, du poumon et de la prostate. Bon, il est quand même précisé que l'effet est moindre que pour les cancers digestifs, mais quand même la protection oscille entre 9 et 29%. Alors, une autre étude publiée dans le très sérieux Lancet conclut donc que l'aspirine réduirait de 30 à 50% le risque qu'un cancer produise des métastases et atteigne d'autres organes. Alors, est-ce que on met tout le monde sous aspirine? La question se posait tout à l'heure. Certains chercheurs affirment que oui, mais d'autres sont sceptiques. Pourquoi les sceptiques? Parce qu'ils disent qu'ils se posent la question de savoir s'il serait judicieux d'utiliser une seule molécule pour prévenir les cancers, puisque quand on traite des cancers par chimiothérapie, on utilise généralement un cocktail. Par ailleurs, en mai dernier, la FDA, donc l'Agence états-unienne du médicament, a déconseillé l'utilisation de l'aspirine par l'ensemble de la population dans le but de prévenir les problèmes cardiovasculaires, parce qu'ils disent que ça ne serait efficace que pour les personnes ayant déjà subi un AVC ou une crise cardiaque.
Ah, c'est différent quand même.
Un petit peu, oui.
Ah oui.
Pour le reste de la population, les effets secondaires donc de l'aspirine, ben on les connaît, ils sont quand même pas négligeables, sont des ulcères, des hémorragies, des ulcères digestifs, des perforations. Mais quand même, la vaste étude qui a été publiée cet été pourrait amener la FDA à revoir sa décision en raison de la conclusion qui est claire par un des deux chercheurs. Et Marine Cornu rapporte exactement les termes. Prendre de l'aspirine est la chose la plus importante à faire pour réduire le cancer après l'arrêt du tabac et de la lutte contre l'obésité. Ça ne se fait pas tout seul quand même. Hein. Ils ajoutent encore, je pense que tous les adultes de plus de 50 ans devraient prendre de l'aspirine à titre préventif, à moins qu'ils aient un problème connu de saignement.
Donc, ça veut dire sur un plan régulier, sur une base régulière.
Voilà, exactement, systématiquement.
C'est étonnant, ça. Donc, alors, je m'y mets à partir de demain.
Ben d'accord, moi, je m'y suis mise depuis 3 jours.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est que tu pars en vacances? Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances.
Quand c'est,
donc, la chanson, elle connaît.
Ah oui, cette chanson-là, vraiment, merci André. Beaucoup, Jean-Sébastien, de nous l'avoir passée.
C'était un choix d'André.
C'était une chanson de Stromae, Cancer.
Oui.
Vraiment,
oui.
Je la trouve extraordinaire. Ça me donne des frissons chaque fois que je l'écoute.
Ah oui, qui se prêtait bien à notre sujet.
Hein? Absolument.
Maintenant, je vous amène au pays des lutins pour découvrir le safran. C'est Simon Coutu qui nous en parle dans Québec Science, octobre 2014. Donc, on connaissait Saint-Eddie Caxton, ben, particulièrement pour Fred Pellerin.
Ben oui.
Mais voilà qu'on cultive maintenant au pays de Fred Pellerin une épice exotique qui est en fait plus convoitée que l'or. Il y a une agricultrice de Saint-Eddy qui attend des fleurs. Et pas qu'un peu. Elle veut voir éclore 6250 douzaines de Crocus sativus. Donc, c'est le don, dans son champ à Saint-Eddy de Caxton. Mais elle ne prendra pas trop de temps à les contempler parce qu'elle a seulement 24 heures pour les cueillir, toutes, l'ensemble. Ces fleurs d'une grande délicatesse sont aussi extrêmement précieuses puisqu'elles cachent une épice plus chère que l'or, le safran. L'entreprise s'appelle Pure Safran. C'est la première à oser cultiver et commercialiser la plante au Québec.
Ben oui, ça me surprend ça, parce que moi, j'imaginais que c'était dans des pays exotiques où il faisait toujours beau, toujours chaud.
Jusqu'à maintenant, c'était le cas. C'est encore produit en Iran, au Cachemire, en Espagne et en Inde particulièrement. Ouais. Pays des épices qu'on voulait découvrir.
Comment elle fait, hein?
Oui, c'est très particulier. Donc, Crocus sativus peut très bien résister à l'hiver québécois. Il a besoin du froid pour fleurir. Ah. Parce que même l'hiver, sous plus de 1 mètre de neige, la tige est toujours verte et elle continue de pousser. Et alors, je vois pas pourquoi on l'importe d'Espagne ou d'ailleurs, alors qu'on peut très bien la produire ici. Alors, c'est en 2011 que l'agricultrice plante les premiers bulbes. Plus précisément, ça s'appelle des cornes. Et importés de France, ils se sont acclimatés aux hivers de Lanaudière depuis. Ça fonctionne très bien, apparemment. La neige les protège. L'an passé, sur 50 000 bulbes qu'elle a plantés, elle n'en a perdu que 3.
Wow, c'est
merveilleux, hein? Ouais. La plante vivace a un cycle de floraison inversé. Elle est en dormance tout l'été et ses feuilles prennent l'allure du foin jauni et desséché, donc c'est pas beau du tout. Alors, le bulbe se réveille à la fin du mois d'août et le crocus fleurit à l'automne. Puis, le froid déclenche l'éclosion.
Donc, elle fonctionne à l'envers
de presque tous les autres. Tout à fait.
Okay.
Alors, la partie de Crocus sativus que convoitent les gourmets, c'est l'ensemble des 3 stigmates contenus dans le pistil. Il s'agit d'un organe sexuel qui est extrêmement sophistiqué. Il est notamment capable de rejeter le pollen qui vient de la même fleur. À la particularité, ce crocus ne produit pas de graines et il ne pousse pas à l'état sauvage. Donc, il faut qu'il soit cultivé.
Okay.
Il y a donc absolument besoin de mains attentionnées pour se reproduire. Alors, année après année, et c'est la raison pour laquelle c'est si cher, parce que c'est très délicat, année après année, les bulbes laissent de 4 à 10 clones qui permettent à l'espèce de se perpétuer.
Attendez, Michel, vous dites qu'il coûte si cher, là. Moi, quand j'en ai acheté, c'est tout petit filament de rien, là,
oui,
dans une minuscule petite boîte. Ça coûte assez cher, merci.
C'est 60 $ le gramme.
Le gramme?
Donc, c'est plus cher que l'or, le prix de l'or. Le bulbe, c'est un ensemble de feuilles qui poussent sous terre et qui servent à stocker des nutriments pour la plante. C'est cette partie souterraine qui la protège des conditions difficiles, le froid de chez nous particulièrement. Mm-hmm. Et on a fait du chemin de safran avant d'arriver au Québec. Hein. La fleur serait originaire de Crète. Et les plus anciens textes qui en mentionnent l'existence datent de plus de 5000 ans.
À quoi ils s'en servaient il y a 5000 ans? Comment ils s'en servaient?
On s'en servait pour la saveur des plats, pour rehausser la saveur des plantes, autre chose, mais pour des propriétés médicinales et aussi, étonnamment, pour la teinture. Et les plus importants producteurs de safran aujourd'hui sont l'Iran et l'Espagne. En Amérique du Nord, ce sont des immigrants allemands qui étaient installés en Pennsylvanie en 1730 qui ont réussi à l'implanter. Au Québec, elle fait figure de curiosité. Il y a un autre agriculteur qui s'est lancé à son tour dans la production de safran. C'est à Saint-Basile-le-Grand, donc c'est près
c'est
de chez nous ici. Hein? Et en fondant récemment l'entreprise qui s'appelle Le Clan. La récolte qui se fait en octobre exige la minutie d'un horloger. Chaque fleur est cueillie à la main et on extrait ensuite le pistil à la pince pour n'en garder que les 3 stigmates d'un rouge vif. Alors, vous imaginez le travail, hein? Ça prend de 150 à 200 000 fleurs pour produire 1 kilo. Alors, c'est 75 000 fleurs, la dame dont on parlait précédemment, espère donc obtenir 500 grammes. Tout ce travail pour obtenir 500 grammes. Alors, l'étape suivante, c'est le séchage. Pour le, c'est crucial pour la safranière. Je le dis comme nom, hein, la safranière. Ouais. Et c'est à ce moment que se décide le parfum, l'arôme, la couleur. Les stigmates perdent 80 % de leur masse. Et il faut attendre un mois avant de les consommer. On a déjà surnommé le safran l'or rouge. C'est le produit alimentaire le plus coûteux de la planète. Je le mentionnais précédemment. Le prix du gramme de safran, c'est oscille autour, parce que c'est selon le marché, un peu comme l'or, hein, autour de 60 $. Ce n'est tout de même pas pour ruiner un chef cuisinier, puisque quelques stigmates, on ne parle pas ici de grammes, mais quelques stigmates suffisent à parfumer le contenu de 50 à 150 assiettes. Donc, ça en prend très peu.
Très peu. C'est pour ça qu'ils les vendent dans des petites boîtes minuscules.
C'est ça.
Là.
Donc, la production mondiale est aujourd'hui estimée entre 90 et 200 tonnes par année. 90 % provient de l'Iran. Alors, on comprend que la production québécoise est en comparaison vraiment très marginale. Mais si on en croit l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels de l'Université Laval, le safran d'ici est d'excellente qualité. Donc, c'est vraiment très prometteur et très innovateur comme culture, absolument. Donc, c'était Simon Coutu qui nous en parlait dans Québec Science d'octobre 2014.
Eh bien oui, je voulais rajouter deux, trois petits mots concernant l'article que je vous ai proposé sur l'aspirine et ses promesses. Et alors, ce qui est dit aussi dans l'article, c'est que les preuves sont là en ce qui concerne les possibilités de l'aspirine de retarder l'apparition d'un cancer. C'est que le problème, c'est qu'il y en a, il y a plusieurs difficultés. Parce que l'aspirine a un gros défaut, c'est que son brevet commercialisé depuis 1899, a expiré il y a belle lurette. Donc, pour faire la preuve d'un effet préventif, comme on en a parlé, il faut mener des essais qui incluent plusieurs milliers de patients. Donc, il faut beaucoup d'argent. Mais comme il n'y a plus de propriété intellectuelle, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas très intéressées, sauf que, quand même, les promesses donc, de l'anticancéreuse de l'aspirine ont piqué l'intérêt de nombreux financeurs, aux États-Unis notamment. Et donc, il nous va falloir attendre les résultats en 2025. Et les chercheurs doivent encore plancher sur le mode d'action de l'aspirine parce que, bizarrement, on connaît encore très peu de choses sur l'acide acétylsalicylique.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Eh bien, c'est un article extrait de Ça m'intéresse du mois de septembre 2014 et qui nous explique comment les plantes nous apaisent. Je ne sais pas si vous avez constaté ce bénéfice des plantes, mais en France, il semble que 9 Français sur 10 estiment que le contact des plantes est bon pour leur équilibre quotidien.
En autant qu'elles sont naturelles.
Ah ben, évidemment, évidemment. Donc, c'est pas très étonnant quand même parce qu'il y a beaucoup d'études qui confirment les bienfaits des plantes sur notre esprit. Elles auraient donc différentes propriétés. La première, c'est qu'elles font baisser le stress. En effet, une étude réalisée par un chercheur japonais a fait marcher des hommes en forêt et un autre groupe en milieu urbain. Après la promenade, il a constaté que le taux de cortisol salivaire, qui est l'hormone du stress, était beaucoup moins élevé dans le groupe d'hommes qui marchaient en forêt. En effet, bon, quand on est en ville, notre esprit est sans cesse en alerte, et c'est ce qu'on appelle l'attention volontaire. En forêt, l'esprit se fixe sur les odeurs, sur l'air frais, sur le chant des oiseaux. Et il n'est accaparé par rien d'important et il peut donc se reposer. Et ceci, ça marche également à l'intérieur. Parce qu'à l'Université de Washington, ils ont démontré que des personnes stressées voyaient leur pression artérielle diminuer de 4% en entrant dans une pièce remplie de plantes. Une deuxième propriété, elles augmentent la concentration. Comment a-t-on pu vérifier cette affirmation?
Oui, c'est étonnant, ça.
C'est étonnant, hein?
Oui.
Mais vous allez voir que c'est vraiment scientifique, hein? Ce sont des chercheurs norvégiens qui ont étudié la capacité de mémorisation en 2011. Alors, toujours deux groupes, évidemment. Un premier qui se trouve dans une pièce fleurie et un autre groupe qui se trouve dans une salle vide. Ils sont tous assis devant un ordinateur et tous, ils doivent mémoriser le dernier mot des phrases qui défilaient sous leurs yeux, puis les réécrire dans l'ordre. Donc, dans les deux groupes, un dans une pièce fleurie, l'autre dans une salle vide. Et au dernier essai, le taux de rappel était de 72% pour les participants dans la pièce fleurie et de 64% seulement pour les autres.
Une différence importante quand même.
C'est ça, hein?
Oui.
Parce qu'en fait, ça conclurait que la présence de plantes crée non seulement un environnement reposant pour l'esprit, mais qu'il est aussi stimulant. Et une étude japonaise a confirmé encore ceci. On présentait à des étudiants des adjectifs. Et ces adjectifs, ils devaient trouver un maximum de mots associés. Au final, ceux qui étaient assis dans une pièce avec des plantes en ont donné plus que ceux qui se trouvaient dans une pièce vide. Alors, donc, s'entourer de plantes vertes au bureau augmentait la concentration, puisqu'il fallait vraiment être attentif, et la productivité.
Ah, on pourrait suggérer à nos patrons d'en mettre un peu partout.
Ah ben, c'est une bonne suggestion. On va lancer un appel.
On va mettre dans le studio ici.
Ah ben oui, pourquoi pas? Ce serait une bonne idée.
Oui.
Donc, en troisième, ce qu'elles ont comme propriété, c'est qu'elles favorisent les relations sociales. Alors ça, c'est assez rigolo, l'étude qu'ils ont mise en place quand même. Parce qu'ils ont demandé à un groupe d'hommes, à deux groupes d'hommes en fait, de faire de l'autostop. Un groupe avec un bouquet de fleurs et un groupe sans bouquet de fleurs. Ben, le résultat, c'est que le pourcentage d'arrêt pour les hommes qui avaient un bouquet était de 12% et ceux qui n'en avaient pas, 4%. Alors, si vous voulez faire de l'autostop et être efficace, ayez avec vous
Soyez
un petit bouquet
fleuri.
De fleurs. C'est sûr que les fleurs, elles ont une connotation romantique indiscutable. Hein,
surtout
donc,
en plein hiver, il me semble. Ça va boire de la route avec les fleurs. Oui.
En plus, en plein hiver. Mais une enquête qui a été menée auprès de 10 000 Hollandais a démontré que plus il y avait de verdure dans leur environnement et plus ils recevaient de visites. Bon, peut-être que c'est une coïncidence, on ne le sait pas. Mais moi, je suis toujours surprise, savez-vous, quand je me promène dans les parcs, et Dieu sait qu'on en a beaucoup à Montréal, de voir comme les gens sont rassemblés, comme la proximité de la nature a un effet rassembleur. Et donc, si vous voulez, on peut conclure que la présence de plantes crée un environnement attractif. Les espaces verts sont des lieux de rencontre qui favorisent la mixité sociale, générationnelle et culturelle.
Ainsi, meublons nos intérieurs de plantes.
Nos intérieurs et nos espaces de travail aussi.
Ah oui, tout à fait, si on veut être productif.
Puis je voudrais ajouter juste quelque chose aussi. C'est un petit encart qui dit que vivre dans un logement ayant une vue sur un espace vert ferait économiser, c'est une étude britannique qui le dit, à peu près 450 $ canadiens de dépenses de santé par personne et par an.
Ah.
Donc c'était un article de Ça m'intéresse du mois de septembre 2014.
Thank you.
Ah, vous savez qu'on en parle beaucoup de l'immigration illégale un peu partout dans le monde. Mm-hmm. On essaie d'entrer par tous les moyens.
C'est un problème pour M. Obama en ce moment.
Oui, oui. Ben, particulièrement avec... il y a eu plusieurs reportages sur de Mexique. Qui est une véritable passoire. Hein. La frontière est tellement immense, tellement longue. Donc, on a essayé de trouver des moyens pour contrer cette immigration illégale. Et ça s'appelle « Les murs ont des antennes ». C'est Bin An Vu Van qui en parle dans une revue qui est nouvelle pour moi. C'est une revue pour les jeunes qui s'appelle « Curium » et novembre 2014.
On aime ça, les gens qui sont curieux.
Oui, tout à fait. Bon, on a des tours de surveillance. Bon, pour garder leurs frontières, les Américains ont érigé des tours de près de 30 mètres de hauteur. Alors, lorsque le radar détecte un mouvement, il y a des caméras télescopiques infrarouges qui pivotent pour trouver la source de cette chose-là. Et on a inventé des roches espionnes. Bon, il y a des roches qui épient les sons suspects, des vibrations du sol, grâce à leur capteurs acoustiques et capteurs sismiques, donc très, très sensibles. Et certaines intègrent aussi des capteurs magnétiques, des caméras infrarouges, des radars. Et toute activité anormale est transmise par antenne radio, par satellite, afin d'attirer l'attention des drones ou d'équipes de patrouille. Donc, vous avez des endroits où vous avez des drones, particulièrement au-dessus de la frontière du Mexique. On en retrouve des milliers en Afghanistan et en la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc, des roches espionnes. Des camions râteaux. Assez étonnant, hein? C'est des camions qui ratissent des centaines de kilomètres dans le désert, des centaines de kilomètres de sable. Ainsi, tout intrus sera trahi par ces empreintes de pas. Mais les patrouilleurs ont découvert dans le désert ce qu'ils appellent des chaussures tapis. C'est des, qui ont été abandonnées par des immigrants illégaux. C'est des souliers qui ne laissent aucune trace dans le sable. Vous avez des robots rampants. Alors, qu'est-ce que c'est que les robots rampants? Ils sont petits, sont téléguidés, munis de caméras. Et ils se faufilent dans les labyrinthes formés de tuyaux de drainage et dans les tunnels creusés en dessous des frontières. On en a parlé beaucoup, hein? Bande de Gaza, particulièrement.
Oui.
Donc, vous avez des caméras qui vont s'insérer, mais dans des endroits beaucoup plus petits, des tuyaux d'égout, par exemple. Des canons à impulsion électromagnétique. C'est des canons à la James Bond. C'est qu'ils tiennent dans une valise. Ils peuvent émettre des impulsions électromagnétiques puissantes qui brouillent les systèmes électroniques des véhicules et même qui les stoppent sans blesser les occupants. Donc, vous dirigez cette chose-ci et la voiture va être immobilisée.
Wow.
On va espérer que nos policiers sur nos routes ne soient pas équipés de cette chose canon à impulsion. Ils pourraient nous arrêter instantanément.
Hein? Peut-être ne les utilisez pas comme il faudrait.
Vous avez des barrières. Donc, toutes ces choses-là existent. Ce n'est pas un film à la James Bond. Là. Des barrières sous terre. Les Israéliens, je m'excuse, viennent de développer une technologie pour localiser les tunnels creusés sous les frontières de Gaza. Vous avez des géophones qui sont enfouis à 1,5 mètre, 1,5 mètre sous terre. Et ces appareils mesurent la vitesse des vibrations sismiques traversant le sol. Ils seraient aussi équipés d'instruments acoustiques et d'autres gadgets top secret, bien sûr.
Évidemment.
Donc, vous voyez, c'est incroyable l'imagination qu'on peut avoir.
Ouais.
Vous avez aussi des barrières indestructibles. Alors, certains disent que ces barrières sont les plus difficiles à franchir de la planète. Elles sont faites de barreaux d'acier de 10 cm de diamètre dans lesquels se trouvent des armatures avec, entre autres, du béton. Alors, pour les couper, il faudrait des scies très puissantes et plusieurs lames de rechange, beaucoup de carburant. Et le coût de la barrière est estimé à 625 000 $ par kilomètre. Donc, on n'hésite devant rien. Hein? Mmh. Vous avez aussi des robots armés. Israël et la Corée du Sud utilisent des robots téléguidés, armés, pour protéger leurs frontières. Ça, c'est inquiétant. Ces engins meurtriers sont inquiétants car certains sont dotés d'une intelligence artificielle. Mmh. Donc, ils pourraient être programmés pour tuer sans supervision humaine. comme dans le film Terminator, si vous voulez. Donc, on est rendu là. Ouais. Et tout à coup, si le robot se dérègle, ben, ça peut être inquiétant. Hein?
Ouais.
Vous avez des tours mobiles aussi. C'est des tours télescopiques. Je veux un reportage là-dessus, qui se transportent par camion tout terrain. Donc, vous les transportez à différents endroits. Et une fois placés, les patrouilleurs déploient les échafaudages pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur, une cinquantaine de pieds. Et de là, des caméras équipées de vision infrarouge, de laser, peuvent repérer quelqu'un jusqu'à 13 kilomètres de distance. Et même la nuit.
En plus.
Donc, vous avez...
Même pas l'appel à nuit.
C'est ça. Donc, vous apportez ces choses-là par camion à un certain endroit. La tour se déploie jusqu'à 15 mètres et vous pouvez avoir... Donc, des systèmes quand même extrêmement sophistiqués et je suis certain qu'il y en a qu'on ne connaît pas du tout.
Oui, puis on ne parle pas des drones encore.
On ne parle pas des drones, il y en a partout, des drones. Hein. Ouais. Donc, c'était... Les murs ont des antennes hein, et c'était par Bin Han Vu Van dans la revue qui s'appelle Curium de novembre 2014.
Bam, 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 andare a spada tratta banda di timidi, di incoscienti, di inibettati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare. Andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura, di qua c'è la discesa. Andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare. Prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortini. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare. Pompieri, voi che siete seri, puntuali, spegnete questi incendi, nei conventi, nelle anime, nelle banche, andare, camminare, lavorare, queste cassaforti, che banale invenzione, viva la ricchezza mobile, andare, camminare, lavorare, il passato cassetto chiuso a chiave, il futuro al totocalcio per sperare, il presente per amare, non è caso di scappare, andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai, lavorare, uno, due, tre, quattro, io. Right.
Oui, Marco Cagliari, andare, camminare, lavorare, aller travailler à pied.
C'est assez rigolo. Mais ouais, écoutez, oui. Je vais vous parler d'animaux qui ne vont pas à pied, puisque c'est d'un article qui était extrait de la revue Québec Oiseaux de l'hiver 2015. On discutait tout à l'heure de l'hiver, on n'est pas encore en 2015. écrit par Valérie Levé et dont le titre est « Divorcé ou non ?». Alors, il semble que les Québécois et les sternes caspiennes ont un point en commun. Leur taux de divorce qui avoisine 50%. Vous voyez donc que le divorce n'est pas le propre de l'homme et que les oiseaux en usent parfois aussi largement que les humains. Un sur deux, c'est fou, hein?
Oh.
Alors d'abord, on va quand même clarifier un terme, c'est le terme « divorce ». Dans l'article, c'est bien précisé qu'on appelle « divorce » la séparation des partenaires monogames quand ceux-ci sont en vie. Parce que si un oiseau change de partenaire, si une femelle ou un mâle change de partenaire parce que l'autre est décédé, ce n'est pas un divorce. Alors, selon les espèces, le taux de divorce varie, passant de la fidélité inconditionnelle, ça existe encore, au divorce systématique.
On parle des oiseaux, là.
On parle des oiseaux, mais on peut parler des êtres humains aussi, après tout, Michel. Hein?
Oui.
Ça peut arriver à une fidélité inconditionnelle. Bref,
on n'est pas dans... J'ai entendu parler, ça pourrait
d'accord.
Aller, mais...
Alors, aux deux extrêmes. Dans les rangs des fidèles extrêmes, on trouve les rapaces, et entre autres, l'aigle royal. Et en fait, les aigles royaux, ils sont fidèles à leur site de nidification, pour une raison bien précise, c'est que leur nid est généralement bien protégé, et surtout qu'il n'est pas détruit par les intempéries. Donc, logiquement, le couple aura tout intérêt à le réinvestir l'année suivante, puisque donc, les rapaces, en général, ont tendance à utiliser exactement le même nid.
Donc, ils sont heureux de retourner à la maison.
Exactement. Donc, là, dans les études qui sont faites par les différents chercheurs, il semblerait qu'il y a une corrélation entre le taux de divorce et la fidélité au site de nidification. La plupart des individus qui restent fidèles à leur partenaire sont également fidèles à leur nid ou en construisent un à moins de 3 mètres du précédent. Donc le nid semblerait, la solidité du nid semblerait être un élément important pour limiter les cas de divorce. Donc les flamants roses, par contre, présentent une situation complètement opposée. En fait, eux, ils ont des nids sommaires qui sont juste des petits monticules collés les uns aux autres. Et tous les couples sont logés à la même enseigne dans un milieu instable. Alors, comme tous les sites de nidification se valent, les flamands ne prennent pas la peine de retourner l'année suivante sur le site de leur nid ou pour en chercher un de meilleure qualité.
Pourquoi ne pas aller ailleurs?
Exactement. C'est la même philosophie pour les fous de bassin qui sont aussi des adeptes inconditionnels du divorce systématique. Alors, ces deux situations extrêmes pourraient laisser croire que c'est juste la vie en colonie qui favorise le divorce ou donc l'habitat instable. Il y en a quand même qui sont fidèles en amour, ce sont l'oie des neiges par exemple, qui ont tendance à former une famille irréductible, l'abernache du Canada aussi. Il y a différentes études qui ont été faites, et une en particulier, où on a comparé les relations de couple qui a établi qu'il y avait une relation entre la propension au divorce et l'échec à la reproduction. Parce que c'est bien beau vouloir changer de partenaire, mais pourquoi si c'est pas pour améliorer le succès de reproduction? Parce qu'il faut que les oiseaux qui parviennent à maturité soient d'une plus grande quantité.
Ouais.
Donc, c'est à cause de ça.
Est-ce qu'on mentionne si c'est le mâle ou la femelle qui décide de divorcer.
Eh bien oui, on le mentionne justement.
Oui,
c'est noté. Puis peut-être vous allez être surpris.
Ah.
Parce que c'est la femelle.
Ah oui.
Oui, c'est la femelle. C'est le cas notamment du merle noir. Et elle décide de divorcer parce que en termes de succès de reproduction, elle a plus à gagner que le mâle. Là, c'est comme dans les films policiers ou les romans policiers. À qui profite le crime? Le crime, là, il profite à la femelle.
Oui.
Il ne profite pas du tout au mâle pour la bonne raison que ce sont les mâles qui construisent les nids. Alors, je ne tire pas de conclusion particulière. Mais donc, c'est la femelle a plus à gagner puisqu'elle aura plus de petits oisillons et le mâle aura un petit peu plus de travail à fournir. Donc, finalement, ce qu'on a conclu, c'est que la femelle ne quitte pas tant son partenaire de vie que le divorce serait un effet collatéral. Elle le quitte parce qu'elle veut plus de petits oisillons.
Donc, améliorer la race, en même temps.
Améliorer la race aussi. Mais là, il ne parle pas dans cet article-là. C'est surtout en question de nombre, il semble.
Okay.
Parce que les femelles qui avaient un succès reproducteur important, elles restent attachées à leur partenaire, alors que celles qui avaient échoué préféraient leur voisin. Elles réalisent que leur partenaire n'est pas bon, alors elles en changent. Mais c'est incroyable, savez-vous, dans cet article, ce dont il parle, moi, j'en reviens pas. C'est que les oiseaux, c'est comme les humains. Elles épient. Elles observent. Et puis, si elles trouvent qu'elles sont au courant des capacités des autres partenaires, elles sont au courant des qualités des sites. Et c'est là qu'elles prévoient pour l'année prochaine, si jamais elles trouvent que leur partenaire est insuffisant ou qu'il construit mal ses sites, elle va envisager de divorcer.
Je ne sais pas si on décide de rencontre pour des...
Vous n'êtes pas sérieux, Michel, quand même. En tout cas, il y a une corrélation qui est définitivement démontrée entre la taille des colonies et le taux de divorce. Ben, c'est évident, quand il y a plus de choix, on peut épier et puis on peut repérer le meilleur. Ce n'est pas si simple parce que, par exemple, les oies des neiges qui vivent en colonie, Dieu sait, elles sont fidèles même si elles vivent en colonie. Il y a d'autres facteurs qui peuvent brouiller les cartes. Alors, bon, il y a les comportements migratoires, il y a les mœurs de reproductivité, les conditions environnementales. Tout ça sont vraiment des conditions qui peuvent changer l'idée d'être fidèle ou divorcer. Parce que la loi dans le règne animal, c'est avant tout le succès de la reproduction. Et quelquefois, pour avoir une meilleure garantie pour assurer sa descendance, il vaut mieux divorcer.
On parlait du safran précédemment. Et juste vous mentionner que Cléopâtre, que vous connaissez bien, reine d'Égypte, elle attribuait au safran les mêmes vertus, mais disons des vertus qu'on va appeler ici vertus apéritives. Je préfère aphrodisiaque. Aussi, chaque fois qu'elle espérait une rencontre amoureuse, elle faisait jeter dans l'eau de son bain des stigmates de Crocus sativus.
On connaîtra la recette.
Bien, hein?
Alors, la semaine dernière, je vous parlais des plantes encore et de différentes plantes. Et j'ai un petit truc très, très rigolo. Est-ce que vous croyez comme moi que le café le plus cher, c'était celui qu'on appelle le Blue Mountain, qui est produit en Jamaïque? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas celui-là. Il s'appelle le Kopi Luwak. Il est fabriqué en Indonésie et aux Philippines et il coûte à peu près 1 100 $ canadiens. Pourquoi? Parce qu'il est ramassé. Alors là, tenez-vous bien, dans les excréments d'un petit mammifère qui s'appelle une civette, qui ressemble à une petite hyène. Elle ingère le fruit du caféier, mais elle ne digère que sa pulpe. Et à ce moment-là, les enzymes de ses sucs gastriques rendent le grain moins amer et lui donnent un arôme caramélisé ou chocolaté. Allez-y pour 1 100 $ le kilo, c'est pas rien.
Alors, voilà qui met un terme à notre émission. Alors, merci de votre présence, de votre fidélité, et on espère que des sujets vous ont plu. On essaie d'être variés. Ah, merci André, André-Étienne, et je remercie aussi, bien sûr, Jean-Sébastien Laliberté aux choix musicaux et à la mise en onde aussi. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur notre site canalm.org. N'hésitez pas, hein? On aime vous lire et on est en reprise aussi. On est en reprise, j'oublie les heures, c'est à 13h et 21h, on est en reprise. Alors, on vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.